BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot le Mag. Cette semaine, une DRH qui veut changer le monde. C'est Christelle Calipé, la DRH de Litchi. Elle lance un pacte avec d'autres scale-up pour changer l'entreprise. Et puis les managers de transition, ce sont les stars de l'entreprise. Est-ce qu'ils changent? Est-ce qu'il y a de nouveaux profils? C'est la question qu'on va poser à Patrick Abadi chez Delville Management. Vous croyez peut-être que l'entreprise virtuelle, c'est pour demain? Eh bien non, ça existe déjà. On sera avec l'une d'entre elles, c'est EXP. On sera avec Sam Elko, son DG en France. Happy Boulot le Mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot le Mag, l'exécutif de la semaine.
Place cette semaine à une nouvelle génération de DRH. On est avec Christelle Calipé. Bonjour, DRH de Litchi et Mangopé. Qui ne connaît pas Litchi, la cagnotte en ligne, 16 millions d'utilisateurs, 70 collaborateurs basés à Paris. Le groupe appartient désormais en partie au Crédit Mutuel Arkéa. Christelle, vous aimez dans votre travail parler avec vos autres petits copains DRH?
En effet, on a créé un collectif qui s'appelle IDI. IDI, c'est l'acronyme pour Inclusion, Diversité, Équité, Accessibilité. C'est un collectif de DRH. On s'est réunis parce qu'on a tous une conviction commune, c'est celle de construire des entreprises qui sont saines, dans lesquelles tout le monde trouve sa place. Et pour ça, rien de mieux que d'échanger nos pratiques, de s'inspirer et puis de progresser ensemble. Et c'est de là qu'est né notre pacte, le pacte IDI.
Donc c'est ouvert à plein d'autres entreprises, n'importe qui peut, il n'y a pas de critère de taille, toutes les entreprises peuvent participer. Il y a le Laberrache, il y a Youno qu'on connaît bien ici, il y a Station F, il y a Cheers, il y a Ornicar, il y a Dashlane. Tout ça, c'est quand même un petit peu des scale-up françaises. Vous attendez à ce que des grands groupes vous rejoignent?
On serait ravis d'accueillir des grands groupes dans notre collectif.
Mais est-ce que c'est possible?
Alors, nous, on s'est concentré sur notre écosystème, celui du numérique, parce qu'on sait que c'est des entreprises où l'agilité, la transformation de l'entreprise, elle va plus vite. On sait que la thématique de la diversité, de construire des entreprises inclusives, elle concerne pas que les startups et les scale-up. Donc, moi, je serais ravie de voir des entreprises, des grands groupes qui s'intéressent et qui veulent collaborer, si tant est qu'elles aient l'agilité pour transformer et mettre en place les engagements du Pacte IDI.
Sauf que je remarque, moi, qu'il y a dans votre génération de DRH, dans ces groupes numériques, l'envie de partager assez loin dans ce que vous faites dans les entreprises, vos problématiques. Vous travaillez pas ensemble, mais quand même, il y a cette idée de communauté. C'est difficile pour un DRH de grand groupe qui est dans une logique de stratégie assez secrète de partager autant. Vous partagez beaucoup.
C'est tout l'idée, en fait, du Pacte IDI. C'est une communauté de DRH qui représente des entreprises qui s'entraident, qui ont vocation à progresser.
Mais l'entreprise, c'est pas fait pour s'entraider, Christelle.
Je pense que sur le terrain de...
Et la concurrence?
Il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit une entreprise du CAC 40 ou une start-up, on a envie de construire des entreprises où les gens ont envie de travailler, où tout le monde trouve sa place, où les clients ont envie d'acheter vos produits. Et de plus en plus, la responsabilité sociale, tout comme la stratégie de développement, c'est un des vecteurs en fait de succès d'une entreprise. Ça concerne tout le monde. On ne peut pas, à mon sens, se dire je suis un grand groupe et donc du coup ces sujets m'intéressent pas.
Non, mais vous pouvez vous dire je suis sur un marché des talents concurrentiel et je me retrouve à avoir la même politique RH que mes voisins.
Toute l'idée en fait de cette communauté, c'est d'avoir un éventail de start-up et de scale-up. On est parti de là, hein, du terrain qu'on connaît, différentes. Vous le disiez, Youno, Dashlane, Worldia, les premiers membres fondateurs du Pacte IDI n'ont pas les mêmes enjeux, n'ont pas la même taille. Pour autant, on a un but en commun, que notre entreprise soit inclusive, qu'on fasse de l'inclusion une réalité. Et pour ça, on prend des engagements actionnables, concrets, sur la durée.
Concrètement, du coup, c'est quoi pour passer des mots à la réalité?
Alors, on a créé il y a quelques mois une communauté d'entraide. Tout d'abord, on s'est demandé quel était le socle d'engagement qu'on pouvait tous mettre en place, quelle que soit notre taille et quel que soit notre type d'activité. De là est venu un socle d'engagement que je vais vous citer. Le premier engagement qu'on prend et qu'on s'engage à mettre en place dans les 12 mois, c'est de sensibiliser sur l'importance de la diversité. En réalité, toutes les entreprises peuvent le faire. Le deuxième engagement, c'est de piloter la diversité en mesurant et en fixant des objectifs, puisque ce qui ne se mesure pas ne se conçoit pas. Donc,
c'est-à-dire qu'il faut compter.
Chaque entreprise va faire un état des lieux. Il y a des critères qui sont déjà prévus par le cadre de la loi. Je pense par exemple à la diversité des genres ou le pourcentage de personnel qui doit être reconnu comme travailleur handicapé. On a des obligations légales et puis il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'obligation. Pour autant, on a la responsabilité d'agir. Donc, chaque entreprise qui s'engage dans le pacte va venir faire un état des lieux et c'est toute la force de notre collectif. Typiquement, Litchi, nous, on l'a déjà fait. Demain, j'ai une entreprise qui sera liée à nous. On est capable, nous, de s'entraider et de lui dire, voilà la méthode, voilà les données qui sont importantes à prendre en compte.
Et ça, c'est pas de la concurrence. C'est stratégique quand même comme données, c'est carrément ces outils.
Pour moi, c'est pas de la concurrence. On a vraiment chez Litchi la conviction que la diversité c'est une valeur forte, que la force de notre équipe c'est notre plus bel atout. Et je pense que on avait aussi envie d'être proactive et d'avoir un impact positif sur notre écosystème. Donc l'idée c'est pas de se concurrencer, l'idée c'est de créer les entreprises de demain et créer des entreprises bienveillantes où chacun trouve sa place.
Donc, mais ce qui veut dire que vous, votre boulot, Christelle, au quotidien, c'est presque plus de changer le monde que de bosser à l'intérieur de votre entreprise ?
Pas tout à fait. Je pense que c'est tout ça contribue en fait à un cercle vertueux. Aujourd'hui, on a une pénurie des talents. Il y a une guerre de talents, notamment dans le pénurique. Les personnes, les salariés, nos candidats sont attentifs à nos engagements. Par exemple, donc c'est un levier d'attractivité, mais pas que. On sait aussi que plus les équipes sont diverses, plus elles vont avoir une facilité à aller, ouvrir de nouvelles marchés. Elles vont comprendre la complexité des enjeux de stratégie, de développement, etc. Donc, en réalité, tout ça sert l'entreprise. C'est dans la stratégie RH, c'est pas à part. Ça, c'est aussi important que bien recruter ou d'autres leviers de la stratégie RH.
Et on pourrait quand même vous répondre aussi que vous êtes dans le numérique, vous êtes face déjà à une population qui est jeune, qui a déjà ces sujets d'inclusion en tête. Est-ce que vraiment c'est utilisable pour n'importe quel type d'entreprise, dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, ou finalement c'est pas la Silicon Valley qui donne des conseils au reste du monde?
Non, je suis convaincue que tout le monde peut mettre en place les engagements pour poursuivre avec ce que je disais tout à l'heure. Donc, un des engagements, c'est de former les managers et les équipes aux bonnes pratiques. Avoir conscience, par exemple, de c'est bien inconscient quand on recrute, quand on manage une équipe. Par exemple, mettre en place un dispositif d'alerte en cas de comportement inapproprié ou instaurer un recrutement par compétence, c'est-à-dire qu'on met de côté le critère de diplôme qui ne veut en soi rien dire et on s'engage proactivement à recruter des gens sur la base de leurs compétences. Ça, tout le monde peut le faire. Donc ça, c'est j'en ai cité quelques-uns, on en a 7. C'est vraiment le socle d'engagement qu'on veut valoriser et que toutes les entreprises qui vont rallier notre pacte vont s'engager à mettre en place dans un délai de 1 an.
Chez Litchi, vous êtes déjà 80. C'est quoi vos objectifs de recrutement?
Alors aujourd'hui, on est un peu plus de 70. On a eu une vague de recrutement assez significative ces 3 dernières années. Donc là, ça va pas faire partie de nos enjeux.
Là, vous êtes bon. Vous êtes.
on a recruté il y a 3 ans. On était une cinquantaine.
Taille de croisière. Ouais.
Oui. On a déjà beaucoup grossi. Donc ça fait pas partie forcément de nos enjeux immédiats.
Vous êtes sur une population jeune, j'imagine avec un turnover relativement important, pas tous les mois, mais les jeunes bougent, c'est comme ça, maintenant ils ont la bougeotte. Qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils restent, qu'ils passent pas justement d'une entreprise du numérique à une autre comme si elles étaient interchangeables?
Je pense que ce qui fait que les gens restent, ce sont en premier lieu le management, d'où l'idée de former, sensibiliser les managers pour qu'ils aient les meilleures pratiques. C'est comme ça qu'on arrive à accélérer sa rétention, faire en sorte que chaque salarié ait une voix. Par exemple, chez Litchi, nous, on a créé des groupes de travail collaboratifs autour des thèmes de la diversité et de l'inclusion. Chacun peut venir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, on a 4 groupes aujourd'hui. Il y en a un sur la diversité de genre, un sur la thématique LGBT, un autre sur la thématique accessibilité handicap. Et le dernier...
Chacun vient s'il veut, c'est pas...
C'est sur la base du volontariat. Et chaque salarié peut venir proposer des actions, les mettre en œuvre et les déployer. Par exemple, le 2 décembre prochain, on recevra un speaker inspirant. Je ne spoil pas si mes collègues m'entendent. Qui viendra nous parler de son parcours avec brio.
Mais est-ce que dans les faits, du coup, vous arrivez à recruter plus de 6% de personnes handicapées ? Vous arrivez à avoir une diversité dans les managers ? Est-ce que vraiment ça change ?
Alors,
est-ce que vraiment vous arrivez à faire ce que vous voulez faire ?
Oui, c'est vraiment un travail de tous les jours. Moi, j'ai une démarche, et on a tous, en fait, collectivement, dans ce collectif, une démarche humble. C'est un work in progress. Il n'y a pas de date de fin. On peut toujours s'améliorer. Typiquement, nous, sur la diversité des genres, on sait que voilà, nos équipes, elles sont équilibrées, et c'est pas... On a complété cet enjeu. Typiquement, sur les 6% de travailleurs handicapés, on n'y est pas encore aujourd'hui, mais je suis sûre qu'on va y aller demain. Et on va mettre toutes les actions en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif.
Est-ce que vous vous attendez à ce que vos salariés soient plus exigeants, justement, avec vous, maintenant que vous avez mis noir sur blanc cet engagement, à dire, attendez, vous avez dit ça, mais un peu comme dans les entreprises à mission, ça n'avance pas.
En réalité, le pacte ID, c'est d'abord un engagement interne au sein de Litchi et Mangopay. On a eu l'ambition de se dire, au-delà de nos bonnes intentions, au-delà de nos convictions, on a envie de formaliser nos engagements diversité et inclusion. Donc en fait, c'était déjà un chemin qu'on avait pris. Et ensuite, on s'est dit... On sait que les discriminations, ces sujets-là, ne s'arrêtent pas à notre porte. Et on a envie de rallier d'autres entreprises pour progresser ensemble et construire les entreprises de demain. Donc, par exemple, on a mis en place une charte. On a formalisé nos engagements où chaque salarié s'engage aussi lui-même à être un allié de la diversité. Donc, ça y est, nos salariés sont déjà embarqués. Les salariés qui nous rejoignent, ils nous rejoignent aussi parce qu'on a une entreprise qui est engagée sur ce thème.
Merci beaucoup, Christelle Calipé, DRH de Litchi et Mangopay, une génération de DRH qui veut aussi changer le monde. Ça fait beaucoup de travail, changer l'entreprise, plus changer le monde. On va parler ensemble de managers de transition, eux aussi, ils changent.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on est avec Patrick Abadi, bonjour, fondateur de Delville Management. On va parler donc manager de transition, ce super-héros des entreprises, connu souvent pour gérer des problèmes, des grosses crises, mais ça change. Le manager de transition est aussi appelé dans d'autres directions. Comment se porte le manager de transition ? Est-ce que c'est toujours une star ?
Alors, c'est toujours une star, mais dans des situations qui sont un petit peu différentes. À l'époque, on était beaucoup sur du restructuring, du retournement d'activité. Aujourd'hui, on est là pour accélérer la croissance de nos clients. Et d'ailleurs, ça s'entend parce qu'il y a deux caractéristiques principales pour un manager de transition ou deux caractéristiques à une situation de mise en place du manager de transition. La première, c'est l'urgence. La deuxième, c'est l'enjeu est important. On retrouvait ça dans le restructuring et évidemment aujourd'hui, on le retrouve dans l'accélération. Quand on parle avec un fonds d'investissement, par exemple, qui fait du build-up, des opérations de croissance externe et qui cherche à faire grossir sa participation très rapidement, eh ben, on est là pour
Donc l'urgence, muscler... c'est le développement.
Exactement. Exactement. Et on aide nos clients à développer et à accélérer ce développement.
Est-ce que du coup, ça a changé complètement votre vision, même à vous, des recrutements de managers ? On ne cherche plus des gens qui gèrent que des problèmes. Ils avaient déjà une vision, ceux qui géraient des problèmes. Est-ce que ça a changé votre typologie de manager de transition ?
Alors clairement, au début du Covid, le Covid c'était il y a à peine 18 mois.
C'est presque toujours là, ouais.
C'est presque toujours là, effectivement. On devrait pas
en revenir. Ça revient, ouais.
Ça revient d'ailleurs. Mais au début du Covid, on nous appelait pour mettre en place des dirigeants qui avaient vécu des crises, hein, des directeurs financiers qui savaient faire une prévision de trésorerie pour savoir si on allait payer les salaires du mois de juin 2020 ou juillet 2020. Depuis, on les a payés, hein, dans la plupart des cas. Bien heureusement, et d'ailleurs merci à l'État français. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est tout autre. On cherche des développeurs, on cherche des gens capables de monter des équipes, de conserver ces équipes. On cherche des bons managers en plus d'être des bons techniciens.
Est-ce que vous avez baissé la moyenne d'âge du coup ?
Non, la moyenne d'âge...
C'est toujours un truc de vieux.
Alors, c'est pas un truc de vieux, c'est un truc de moins junior.
Ouais, bah, ce qui est un peu normal. Ouais.
Voilà, le plus jeune manager de transition qu'on ait eu à impliquer chez nos clients, il avait 42 ans. Et le moins junior... plus senior. Il a, je crois qu'il est né en 45, vous voyez, donc vous faites le calcul. Et le client est ravi de l'avoir actuellement en mission grâce à nous.
Vous faites de la promotion pour le recrutement des seniors, gros enjeu RH dont on pourra reparler. Donc accélération de la croissance, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme axe de développement?
Alors il y a un axe de développement qui est somme toute relativement récent, hein, même si on en parle, c'est évidemment l'écologie, évidemment le zéro CO2. Et donc nous, l'influence de cette situation sur les demandes de nos clients, c'est des responsables de projets d'industrialisation pour décarboner l'économie ou décarboner l'industrie, clairement. On se retrouve par exemple chez un équipementier de rang 1 qui hier construisait des pièces pour les moteurs thermiques qui allait fermer leur usine avec des salariés qui allaient pointer au chômage. Et d'un seul coup, on a pris cette usine-là pour la transformer et faire des carters en matériaux composites pour y placer des batteries de voitures. Et c'est pas un ou deux carters. Comme il y a toute l'industrie qui se met à l'électrique, il faut qu'on en sorte 200 000 carters d'ici à la fin d'année prochaine.
Mais du coup, pourquoi lui se tourne vers un manager de transition et qui monte pas carrément un pôle chez lui entier?
Parce qu'on a à gérer cette transformation à l'intérieur des entreprises qui occupe quasiment 9 missions sur 10. 90% de nos sujets, c'est de la transfo. Et là, on est vraiment dans le cœur du sujet. On a une situation A, il faut qu'on aille vers une situation B. Quand la situation B sera stabilisée, alors notre client pourra recruter quelqu'un en permanent, en CDI. Et là, lui, son enjeu, ce sera de recruter un bon manager qui conserve une équipe et qui sorte ses carters de voiture pour reprendre l'exemple concret. Mais là, pour gérer la transformation, rien de mieux que de prendre un manager de transition très expérimenté et qui l'a déjà fait.
Et vous trouvez les experts? Ils existent, ces experts-là?
Bien sûr qu'ils existent. Ils existent grâce à notre club d'affaires, le club Delville, qui compte aujourd'hui 500 membres d'excellence, dont la moitié sont managers de transition, mais le reste, c'est nos clients, nos prospects, c'est tout notre écosystème, c'est tout notre réseau.
Donc, par exemple, sur la décarbonisation, vous aviez déjà anticipé. C'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis un moment, et là, la demande est là.
Alors, on n'a pas forcément cherché un expert de la décarbonation de...
On dit décarbonation.
Je crois bien, ouais.
Je vous suis. Donc,
on ne cherche pas forcément un expert du zéro CO2, on va dire ça comme ça, mais on va plutôt chercher un expert de la transformation en ingénierie industrielle. Hein, et des profils comme ça, notre métier, c'est d'en trouver 3 en 3 jours. Donc ça, c'est notre promesse client, de dire en 72 heures, on est capable d'identifier 3 personnes disponibles lundi prochain.
Quand on s'est parlé pour préparer cette interview, vous m'avez dit il y a donc la décarbonation de l'économie, la supply chain, la digitalisation, l'accélération de la croissance, rien sur les RH. Il n'y a pas d'urgence en termes de recréer de l'émulation dans l'entreprise, non, c'est pas un sujet qui monte.
Aujourd'hui, le sujet qui monte, c'est que sur les cadres dirigeants, ou sur les cadres tout court d'ailleurs, on est à 3,5% de chômage. Aujourd'hui, tous les cadres sont occupés. On est revenu au même taux que pré-pandémie. Donc l'impact pour nous sur nos missions de RH, oui évidemment on en fait, mais on n'est pas du tout sur des missions de RH pour réduire la voilure. Au contraire, c'est comment on peut lancer un plan de recrutement massif, comment on peut faire une opération de fusion et acquisition et d'essayer de fusionner les entités tout en respectant l'humain qui est évidemment au cœur et qui crée la valeur au cœur de nos clients. Donc c'est plutôt sur ces aspects-là RH qu'on est sollicité, effectivement.
On n'est pas sur une France qui va mal, on est sur une France qui repart.
Là, clairement...
Vous devriez inviter des candidats à l'élection présidentielle à venir faire un stage de manager de transition.
Mais pourquoi pas?
Je vais lancer une émission de télé-réalité. C'est noté. Merci beaucoup Patrick Abadie, fondateur de Delville Management. On va parler métaverse d'entreprise. Restez avec nous.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
L'entreprise 100% virtuelle, vous pensez peut-être que c'est pour demain, mais en fait ça existe déjà. On est avec Samuel Coe, bonjour, vous êtes directeur général d'EXP France, une entreprise où vous avez un avatar, tous vos collaborateurs ont des avatars, vous n'avez pas de bureau, vous vivez dans un univers complètement virtuel.
Bonjour Laure.
Et vous faites du vrai business.
On fait du vrai business. Merci de me recevoir. Oui, tout à fait. C'est la particularité de notre réseau, de notre agence immobilière, réseau de conseillers en immobilier. On est dans 18 pays. Nous sommes une société américaine à la base, depuis un an en France. Et nos 68 000 conseillers dans le monde sont représentés par un avatar. Et toute la partie back-office se passe sur cette plateforme, ainsi que pour l'ensemble du staff. Donc, 0 mètre carré de bureau, une société 100% remote. Des facilités donc pour recruter, hein. Moi, mon personnel salarié dans la OXP France est un petit peu partout en France, donc ça nous facilite la tâche, et des conseillers qui utilisent notre plateforme pour évidemment vivre leur vie d'avatar. L'avatar peut faire du basket, se promener en bateau, nous sommes sur une île,
donc d'accord, donc il fait du divertissement aussi, l'avatar.
Tout à fait, on a eu des concerts, donc on a eu plein de choses, on a des salons, là il y a un événement fin du mois avec un salon qui est ouvert à tout le monde du reste, et donc cette plateforme nous sert notre back-office, mais nos conseillers en immobilier sont, eux, dans la relation humaine, sur le terrain, physiquement.
Leur avatar, eux, ils sont indépendants, oui. 68 000 à travers le monde, donc oui. Ils font leurs visites, etc. Mais tout ce qui est activité en dehors de la visite propre et de la relation client où ils voient les gens, tout ça, c'est forcément de chez eux.
Bah, c'est un peu l'avantage de notre modèle, c'est qu'en plus, nous sommes dans un modèle d'humain, de physique, de relationnel. Mais toute la partie back-office qui était chronophage, où il faut faire des déplacements pour aller au bureau, pour aller voir une réunion, pour aller faire de la formation, toute cette partie-là, chez nous, est dématérialisée.
Mais est-ce que vous êtes du coup vraiment une entreprise ? Parce que vous avez vos collaborateurs indépendants, vous n'avez pas de bureau, ou... qu'est-ce qui vous lie chez EXP ? Parce qu'en plus, si vous êtes plus 1000 collaborateurs par semaine qui arrivent, il faut faire de l'onboarding. Hein.
J'ai des spécialistes d'onboarding. Ah. C'est un de mes postes. Mais on vient d'annoncer, j'étais à Las Vegas pour notre convention nationale il y a 10 jours, et on vient d'annoncer,
en vrai avec votre corps.
Physiquement. J'ai rencontré, du reste, les gens qui m'ont recruté, avec qui je bosse tous les jours, pour la première fois physiquement. Et on vient d'annoncer 500 000 personnes dans les 5 prochaines années, sur 50 pays. On a ouvert l'internationalisation, a commencé il y a un an, à date d'aujourd'hui. On a ouvert 14 pays en un an.
Donc c'est parce que vous n'avez quasiment pas de coûts, en fait.
Alors,
vous pouvez ouvrir la terre entière.
C'est le grand avantage de notre business model, c'est que ça nous permet, déjà on le fait sur fonds propres, puisqu'on est une agence intégrée, on n'est pas un système de franchise, et ça nous permet évidemment de mieux rémunérer nos conseillers en immobilier. C'était le modèle de base. L'idée de base était de réduire les coûts de structure afin de mieux rémunérer celui qui fait le boulot.
Du coup, vous n'avez pas de problème de recrutement ?
Du coup, nous n'avons pas de problème de recrutement. Alors, on est un petit bébé en France, hein, on est naissant. On n'a pas encore notre date anniversaire, mais on a déjà plus de 100 conseillers qui nous ont rejoints. Et nous continuons notre croissance qui sera exponentielle due à notre business model.
Et justement, en France, vous dites que vous venez d'arriver, on est sur un marché avec des gros acteurs, des grosses franchises, des gros réseaux, des grosses agences. L'argument principal qui est de dire la rémunération est supérieure, ça fonctionne ?
Alors, rémunération supérieure, qualité de service.
En plus d'aller à Las Vegas.
On est une plateforme de service B2B. Donc, c'est la qualité de notre service qui est aussi jugée. Pas que la rémunération. Mais la rémunération est importante. On est coté au Nasdaq et chacun de nos conseillers en immobilier dans le monde est actionnaire de cette société. C'est inédit, ça aussi. Une société qui donne des actions à ses conseillers en immobilier indépendant, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui,
ça crée déjà de l'unité.
Ça crée de la fidélisation, ça diminue le taux de churn, enfin, etc. Donc c'est des choses où on fidélise. En fait, si vous voulez, l'entreprise, je ne vais pas faire de la démagogie, mais elle appartient à ses conseillers. Elle est créée pour les conseillers, elle appartient à ses conseillers. Ses conseillers la font grandir. On a un système de parrainage où là aussi on partage le revenu. La part de XP est partagée à travers les conseillers qui ont parrainé d'autres conseillers. Donc tout ça vient faire un système qui fonctionne et qui est exponentiel.
Et qu'est-ce que vous dites, vous, à titre personnel ? Vous dites, j'imagine que vous n'avez pas toujours travaillé chez UXP, puisque ça fait un an que c'est en France. Vous dites, c'est ça la solution ? Baisser les coûts, augmenter les salaires, intéresser les gens à l'actionnariat ? On se trompe en France à vouloir faire du bureau et à mettre tout le monde ensemble pour faire entreprise ?
On est en train de changer, de toute façon. Je pense que c'est vraiment le sujet du moment.
Ou en arrière aussi, un peu.
Oui, d'un autre côté, on va voir ce que donne un petit peu le retour sur cette épidémie et sur notre cours de bourse a explosé pendant le Covid, parce que ce système, Facebook vient de le déclarer avec le métaverse, donc on est tout à fait dans cette stratégie. C'est ce qui a fait aussi notre succès. Donc est-ce qu'on se trompe en France ? Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas dans le métier que je connais bien, qui est celui de l'immobilier, puisque vous avez raison, ça ne fait qu'un an chez UXP, mais 22 ans que je fais de l'immobilier. Il est évident que le gros du travail est quand même fait par le conseiller en immobilier sur le terrain. C'est une relation humaine avant tout. Vous confiez votre bien à quelqu'un que vous connaissez, à quelqu'un que vous reconnaissez comme un professionnel de l'immobilier et surtout pour son savoir-être.
Mais l'agence est morte.
C'est pas à moi de le dire, mais néanmoins aujourd'hui, est-ce que réellement vous vous avez vendu un bien, vous êtes allé voir une agence que vous aviez vue dans le quartier ou vous a présenté quelqu'un ?
Écoutez, j'ai des relations.
Donc vous avez des relations. Donc ça fonctionne comme
c'est
ça.
C'est un travail humain et on n'a pas besoin effectivement d'aller directement dans.
C'est joli
dans
vitrine. J'adore les voir. Depuis tout petit, ça a toujours été. Je devais être prédestiné à ça.
L'immobilier, c'est une passion. Merci beaucoup Samuel Coe d'être venu nous voir, directeur général de XP France. C'est la fin d'Happy Boulot Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot Le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.